Panorama économique.
Bonjour messieurs, dames et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio, la radio Okapi. Les titres: la dégradation de routes dans plusieurs provinces de la RDC ont marqué l'actualité économique cette semaine. À Kisangani par exemple, elle a entraîné la hausse des prix de denrées sur le marché, et à Goma, la rareté des denrées, dossier à suivre tout à l'heure. Un nouveau produit sur le marché financier de la République démocratique du Congo, il s'agit de la carte prépayée Eyano lancée par la BIAC jeudi à Kinshasa. Eyano, selon ses géniteurs, devra permettre aux Congolais d'utiliser un produit financier accepté au pays et à l'étranger. Eyano est développé en partenariat avec Mastercard pour une sécurité assurée. Et nous allons recevoir pour vous dans la deuxième partie de cette émission Dr. Anatole Mangala. Il est directeur du programme national d'appui à la protection sociale en RDC. C'est lui notre invité de la semaine. Docteur, bonjour et bienvenue au studio de Radio Capi.
Bonjour.
Panorama économique, le dossier.
Dans notre synthèse de la semaine, nous allons dire qu'il s'observe une flambée des prix des denrées alimentaires venant de l'Est sur le marché de Kisangani. En cause, le mauvais état de la nationale numéro 4, mais aussi la recrudescence de l'insécurité sur certains axes de cette route. Les usagers, dont les opérateurs économiques qui se plaignent, demandent l'intervention urgente des autorités compétentes. Mauvais état de route et insécurité qui handicapent les activités économiques. Il en était aussi question au Nord Kivu. Ici, ce sont des centaines de véhicules qui sont bloqués depuis 6 semaines au niveau de Maboya Kalunguta sur la route qui relie Butembo à la ville de Beni. Au moins 200 véhicules dénombrés par la FEC. Cette situation n'est pas sans conséquences économiques et sociales. La ville de Butembo connaît aujourd'hui une pénurie en produits alimentaires. La ville de Beni, elle, n'est pas en reste. Les produits maraîchers n'arrivent plus de Butembo, et selon le maire de Beni, les produits manufacturés qui provenaient de Butembo ont carrément augmenté de prix à Beni, mais c'est Butembo qui subit des conséquences fâcheuses, comme nous dit ici le président de la FEC Butembo Lubero, Policarpo Ndivito, joint au téléphone par Gisèle Cage.
Il y a les boîtes qui amènent les marchandises qu'on doit ramener après 2 semaines au port de Mombasa où on charge la marchandise. Tout ça, ça fait problème. Il y a des frais de surestarie qu'on doit payer pour ces conteneurs vides là, qu'on fait en location. Il y a les véhicules de Kenya qui nous amènent la marchandise. Tout ça, ça fait également des problèmes de chômage des véhicules parce qu'on signe un contrat pour 2 semaines. Il y a la commande elle-même des marchandises de la clientèle qui n'est pas servie. Nous n'avons plus de produits pharmaceutiques. Les litres de l'essence qui coûtaient 1,3 $, il est aujourd'hui à plus de 5 $. Le ciment qui était à 15 $, il est monté vers 5, 30 $. S'il n'y a pas d'échange avec l'Ituri, il n'y a pas d'échange avec la province de Tchopo, le Haut-Touéné, toutes les provinces de l'Ex, les provinces orientales. Tout est complètement bloqué et alors bloqué. L'exportation du café, l'exportation du cacao, du quinquina, nos commandes à Anvers et partout en Europe, c'est paralysé. Alors on ne sait plus à quel sens c'est voué.
Dans le deuxième dossier de la semaine, nous revenons sur la rencontre de 35 compagnies aériennes de l'Afrique. Il s'est agi de la 47e Assemblée Générale des Compagnies Aériennes d'Afrique, clôturée mardi à Brazzaville. Les 35 compagnies aériennes africaines, membres de l'AFRA, ont échangé leurs expériences. Elles sont tombées sur des conclusions pouvant les permettre à développer ce secteur en Afrique. La présidente de l'AFRA, Fatima Moussa, se confiant à Radio Okapi, a donné quelques précisions au micro de Mimi Nkumba Mulongo.
On a mis beaucoup d'années pendant lesquelles il ne s'est rien passé, mais l'application de la décision de Yamoussoukro a commencé puisque 11 pays se sont engagés fermement et sont en train de mettre en place les mécanismes pour qu'à partir de 2017, dans ces pays, la décision de Yamoussoukro soit une réalité. La deuxième chose dont on a beaucoup parlé pendant notre assemblée générale, c'est la coopération entre compagnies aériennes africaines. Et on a pris des contacts entre nous, entre compagnies aériennes, pour voir les voies et moyens pour coopérer ensemble au bénéfice de nous-mêmes. Parce que le fait de se rapprocher, de former des alliances et travailler ensemble, c'est une garantie pour notre survie.
Avez-vous évoqué au cours des travaux la problématique de compagnies africaines se trouvant sur la liste noire de vols internationaux ?
On en a beaucoup parlé justement de la fameuse liste noire de l'Union européenne. On a abordé ce sujet ici et on a conclu que c'est la libéralisation du ciel en Afrique, l'ouverture du ciel pour arriver à un ciel complètement ouvert, un marché unique du transport aérien en Afrique. C'est ça qui va nous aider à faire face à ce problème de liste noire, parce que l'Union européenne négocie ils sont ensemble. C'est une voix. Pendant que les pays africains, eux, sont dissociés et ils vont faire face à leurs interlocuteurs extérieurs en rang dispersé.
Quelles sont aujourd'hui les difficultés communes d'exploitation que connaissent les compagnies aériennes africaines ?
Les compagnies africaines connaissent des problèmes dus au fait que les charges aéroportuaires, le coût d'opérer une compagnie aérienne en Afrique est plus élevé qu'ailleurs.
Et nous allons boucler cette synthèse de la semaine par la BIAC qui a lancé jeudi à Kinshasa un nouveau produit financier, la carte prépayée EYANO. Selon la BIAC, cette carte permettra aux Congolais d'utiliser un produit financier accepté aussi bien au pays qu'à l'étranger. EYANO est développé en partenariat avec Mastercard en vue d'assurer sa sécurité. Pour en savoir plus sur cette carte, écoutons les explications de Michel Lossembe. Il est le directeur général de la BIAC.
EYANO en lingala signifie la réponse, le défi. Et c'est ce que nous sommes donnés comme défi aujourd'hui. Vous savez qu'il y a moins de 5% de la population qui aujourd'hui ont des comptes en banque. 95% de nos concitoyens utilisent le billet de banque comme étant le seul moyen de faire leurs transactions, leurs paiements, recevoir l'argent de leur famille, payer leur loyer, etc. Nous voulons aujourd'hui, en mettant cette carte sur le marché, avec une technologie simple, permettre à nos concitoyens, que ce soit des individus, que ce soit des toutes petites entreprises ou que ce soit des entreprises plus importantes, d'avoir un instrument qui leur permette de remplacer les espèces et d'avoir un accès au système financier, même à ce niveau-là, et de cette manière pouvoir améliorer l'efficacité de leurs activités.
Est-ce qu'elle est liée à un compte bancaire et à nous, comment elle va fonctionner ?
C'est ça la particularité du prépaiement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion entre la carte et un compte en banque classique. Les cartes qui existent jusqu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des cartes de débit ou des cartes de crédit. La carte prépayée, c'est-à-dire que vous ou votre employeur ou votre fournisseur ou votre famille à l'étranger vont faire un mouvement de fonds pour alimenter la carte dans une puce, comme dans une puce électronique, à partir des points de rechargement, c'est-à-dire soit un guichet de banque, soit un commerçant avec lequel nous aurons un accord ou qui est lui-même connecté au système, soit par Internet, par un virement bancaire qui pourrait venir de votre famille qui vit aux États-Unis ou qui vit en Europe. Donc il y a derrière cela un lien Internet. Malheureusement, il faut passer par Internet pour recharger à distance. Un lien qui vous permettra de faire cette transaction-là et de charger la carte de votre correspondant ou de votre neveu ou cousin qui se retrouve même à l'intérieur du pays.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà, c'est maintenant l'heure de donner la parole à notre invité. Dans cette deuxième partie de Panorama économique, nous allons parler de la protection sociale. Et notre invité, c'est Dr Mangala Anatole. D'aucuns diraient, mais pourquoi un docteur, un médecin dans une émission économique? Mais en tout cas, moi j'ai toujours dit, on ne peut pas faire l'économie avec des gens malades. Et je ne sais pas si le docteur va me dire le contraire.
Non, vous avez exactement raison, parce que
quand il faut une bonne santé pour une bonne économie.
Mais aussi la protection sociale, c'est vraiment la grande sœur de l'économie.
Voilà. Et docteur, ça fait, je crois, c'était au mois de septembre que vous avez organisé la table ronde sur la protection sociale en République démocratique du Congo. Nous vous invitons aujourd'hui pour essayer d'en parler. quelles ont été les vraies motivations de cette organisation, de cette table ronde? Et aujourd'hui, où nous sommes, quelques un mois et demi après cette table ronde, quel est l'état de lieu de la protection sociale en République démocratique du Congo et quoi ça veut dire?
Merci pour la parole et merci pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir nous adresser à notre population pour cette matière qui est trop peu connue, la protection sociale. Quelle était la motivation? Eh bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans sa lettre de mission, c'est-à-dire son plan d'action pour l'année 2015, il a inscrit la protection sociale comme une priorité. Et donc, le Premier ministre, le chef du gouvernement, a demandé au vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale de mettre toutes les batteries en marche dans la commission protection sociale du gouvernement pour pouvoir doter la RDC d'un document de politique nationale de protection sociale.
C'est qu'il y avait un problème, ça manquait.
Ça manquait. Mais ce qui est curieux, c'est que le chef de l'État, depuis 2005, a demandé à ce qu'on puisse élaborer ces documents dans son décret créant le programme national d'appui à la protection sociale. Donc c'est un programme.
C'est que 10 ans après, cela n'a pas été fait.
Voilà, ça c'est le grand problème parce que c'est depuis 2005 donc le chef de l'État a signé les décrets demandant à ce qu'on puisse doter les pays du gouvernement. Mais alors c'est seulement le gouvernement actuel qui vient d'inscrire ça comme une priorité. Et voilà, le processus a commencé au mois de janvier avec des consultations dans toutes les provinces, une table ronde au niveau national qui a bénéficié de participation d'au moins 7 gouverneurs de province qui étaient présents, de plusieurs ministres et d'autres acteurs de la société civique, mais aussi avec les partenaires du gouvernement du Congo, dont le Bureau international du travail, UNICEF, la Banque mondiale et des autres partenaires.
Et vous avez produit un document de politique, la politique de protection sociale pour la République démocratique du Congo.
Oui, je pense qu'aujourd'hui nous pouvons être fiers d'avoir ces documents, parce que ces documents vont permettre une amélioration de la gouvernance du secteur de la protection sociale dans notre pays. Et cela va faire à ce que la grande partie de notre population, surtout les gens qui sont dans l'économie informelle, les personnes de troisième âge, les enfants et les vulnérables, puissent bénéficier aussi des appuis.
Qu'est-ce que prévoit alors la politique pour que ces catégories de nos populations que vous avez citées puissent bénéficier de bien fondés de cette politique de la protection sociale?
Voilà, et donc notre pays étant membre de l'Organisation internationale du travail, il s'inscrit à toutes les résolutions qui sont prises au niveau de Genève. Et en 2012, on a mis en place une recommandation, la recommandation 202, qui parle des socles de protection sociale. C'est-à-dire qu'au niveau de Genève, on a demandé aux pays membres, ceux qui ne sont pas très avancés dans le domaine de protection sociale, de pouvoir mettre en place un socle de protection sociale. Et par socle de protection sociale, il faut comprendre 4 dimensions. Il y a la dimension santé. C'est-à-dire chaque pays doit trouver des stratégies pour que toute la population puisse avoir accès aux soins de santé et que les finances ne puissent plus constituer un frein pour accéder aux soins de santé. Et notre pays est très avancé dans cette voie. Par sa coordination, le vice-premier ministre Willy Makiachi travaille avec le ministre de la Santé dans la réflexion pour une couverture sanitaire universelle de la RDC. Il y a une loi qui est en train d'être élaborée, il y a une loi qui traîne au niveau du Parlement, parce que c'est le gouvernement qui a envoyé, mais ça traîne au niveau du Parlement. C'est passé au niveau du Sénat, mais ça traîne au niveau du Parlement. À ce moment-là, on ne peut pas reprocher que c'est
elle
le gouvernement.
Elle porte sur quoi cette
Elle
loi?
Porte sur le principe fondamental de la mutualisation au Congo. Or, dans cette loi, si cette loi passait au niveau du Parlement, eh bien, toutes les mutuelles de santé agréées par l'État congolais seront subventionnées par l'État congolais. Et c'est à travers ces mutuelles de santé qu'on peut couvrir les prestations de soins de santé, même des personnes de troisième âge.
Mais en attendant, c'est que la situation d'accès aux soins de santé, c'est encore un problème pour la RDC.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela que dans le document de politique, il y a 5 défis. Donc je parlais d'abord des 4 dimensions du socle. Mm-hmm. Je vais terminer ça et puis je vous parle des cinq défis. Mm-hmm. Donc la première dimension, comme on a dit, c'est la couverture sanitaire universelle. Mm-hmm. La deuxième dimension, c'est l'éducation la nutrition et la santé pour tous les enfants de la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que vous voyez des améliorations au niveau du ministère de l'enseignement primaire. Ce que les gens ignorent, c'est que le budget de l'enseignement primaire a doublé depuis 2001 jusqu'à ces jours. Et cela a permis l'accroissement des taux d'adhésion, des taux de scolarisation des enfants. Mais le problème reste quand même entier parce que nous avons quand même 25% d'enfants entre 6 et 15 ans qui n'ont pas accès à l'école. Et ça, c'est un problème. Mais au moins, aujourd'hui, on peut dire qu'on a plus de 12 millions d'enfants au niveau primaire qui sont à l'école. Et donc, ça constitue une force. Et donc, la deuxième dimension, il parle donc de l'éducation, mais il parle aussi de la nutrition et alimentation. C'est-à-dire que ces enfants qui sont à l'école, ils peuvent avoir accès à au moins un repas par jour. Ce qui va améliorer les indicateurs au niveau africain pour la
développement. Oui.
Voilà. La troisième dimension du socle, c'est comment faire pour que les gens qui n'ont pas de revenus, les vulnérables, puissent avoir un minimum de revenus. Et donc là aussi, la RDC est en train de réfléchir sur les stratégies. Toutes les personnes, les aveugles qu'on voit sur la route ici, sur le boulevard, qui sont en train d'être guidés par les enfants, comment faire pour leur donner un minimum de revenus? Donc ça fait partie des éléments que le gouvernement est en train de mettre en place.
Dans la politique de protection sociale.
Exactement. Et la dernière dimension, c'est le revenu minimum pour les personnes de troisième âge. Les personnes de troisième âge aujourd'hui représentent 4,8% de notre population.
C'est
donc
beaucoup.
C'est énorme.
C'est beaucoup.
Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 80 millions comme population.
Et les 4% de 80 millions, c'est beaucoup.
Voilà, 4,8%, presque 5% de la population.
Ouais.
Donc c'est énorme. Comment faire pour que ces gens puissent avoir un minimum de revenus, pour qu'ils puissent vivre décemment? Comment faire pour que ces gens puissent avoir accès aux soins à travers les mutuelles de santé qui peuvent être organisées, si cette loi passait, évidemment. Vous comprenez qu'il y a ça. Et donc là, ce sont les quatre dimensions du socle et le gouvernement a proposé des stratégies. Je crois que dans moins de 10 jours, il y aura un atelier de finalisation de la stratégie. Donc on a fini les documents de politique. Maintenant, nous travaillons sur la stratégie.
Mm-hmm.
Et là, je crois que ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement est parvenu à mettre en place une alliance de partenaires. Donc, régulièrement, le vice-premier ministre a des rencontres avec tous les partenaires techniques et financiers. Ils ont donné leur part, mais le gouvernement a donné aussi sa part. Par exemple, tous les processus d'élaboration du document de politique, le gouvernement a donné 50% du budget. Donc c'est énorme et c'est là ça a beaucoup motivé le partenaire. Alors pour ce qui est des défis...
Des défis, maintenant que la politique, elle est là.
Ouais.
Les socles sont connus,
ouais.
Mais les défis, c'est quoi les défis?
Les défis, il y en a 5. Le premier défi, c'est le défi de gouvernance. Comment rendre la gouvernance de la protection sociale efficace? Et dans ces défis-là, le premier aspect, c'est la coordination. Comment les gens doivent travailler ensemble? Ça, c'est une très, très grande difficulté. Aujourd'hui, les différents ministères, surtout les techniciens, chacun veut travailler de son côté. Alors
un peu dispersé.
Voilà, un autre dispersé.
C'est que la production qui doit caractériser le développement n'y est pas.
Voilà, donc le premier aspect, comme j'ai dit, donc, c'est la coordination, comment travailler ensemble. Et bientôt là, je crois que le vice-premier ministre va convoquer une réunion avec les différents secrétaires généraux de ministères qui travaillent dans le cadre de la protection sociale pour qu'ils comprennent l'intérêt de l'intersectorialité de pouvoir travailler ensemble. Toujours dans les défis de gouvernance, c'est la régulation. On doit réguler. On ne régule presque pas. Si je prends l'exemple du secteur santé, vous n'avez qu'à voir comment les pharmacies pullulent. Partout, est-ce que ce sont des pharmacies? Et donc, on doit réguler. Si je parle de la régulation, c'est aussi la rigueur par rapport même aux gens qui travaillent. Voilà, donc ça c'est le premier défi de la gouvernance efficace. Mais déjà avec les documents de politique, c'est déjà une avancée pour ce qui est de la gouvernance. Deuxième défi important, c'est le financement. Comment financer la protection sociale à la RDC? Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de solliciter de l'aide pour financer notre protection sociale.
Et comment
notre
ça se passe
protection
alors?
Sociale doit être financée d'abord par le Congolais.
Comment?
À deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord, nous devons éviter les gaspillages parce qu'il y en a énormément.
À vous, quel niveau vous situez ce gaspillage?
Je donne juste un exemple pour la bancarisation. Vous avez appris quel montant on a récupéré avec la bancarisation. Ça, c'est un volet. Deuxième niveau de gaspillage. Combien de Congolais travaillent 8 heures de temps? Ils vont au travail, ils font des heures, ils parlent, et puis ils sont sous les manguiers en train de prendre les œufs et du pain, et 2 heures après, ils veulent rentrer chez eux. Donc, il n'y a pas de rendement. Et donc, les Congolais...
La productivité est nulle.
Voilà, nous devons apprendre à travailler. Même dans la fonction publique, les gens ne travaillent pas. Moi, je suis de la fonction publique. Les gens ne travaillent pas. Ils sont sous les manguiers. On doit apprendre à travailler. Donc, on doit limiter les gaspillages. Troisième aspect des gaspillages. Je suis médecin, je parle comme médecin. Combien de médecins directeurs des hôpitaux, même ici à Kinshasa, sont dans les privés? Ils font 2 heures ou 1 heure dans l'hôpital de l'État et le reste de l'État, il est dans sa clinique privée. Des fois même, il dévie les malades.
Et il touche à la prime que l'État propose.
Et l'État lui donne la prime. Et ça, au vie et aussi de tout le monde. Tout le monde connaît, mais il y a de l'impunité. Et donc, je crois que ça, ce sont des choses. C'est gaspillage. Je crois que ça, c'est le premier aspect important pour pouvoir financer notre système. Le deuxième aspect de financement de notre système, c'est qu'on doit sensibiliser notre population pour que les gens puissent contribuer. Évidemment, même ceux qui disent qu'ils sont dans l'économie informelle, il y a des gens qui peuvent financer notre système de protection sociale. Vous n'avez qu'à voir comment les gens consomment la bière à Kinshasa. Et les gens disent que les recettes de la bière à Kinshasa dépassent 4 millions de dollars par jour. Donc c'est énorme. Donc
c'est il faut mettre une taxe de consommation sur la bière, par exemple.
Pourquoi pas? Et donc tous ces gens même qui se disent « moi je n'ai pas d'argent mais ils consomment chaque jour une bière », il aura contribué à sa protection sociale. Donc ça c'est important à savoir. Et notre aspect, quand il y a les taxes, il faut éviter les coulages. Et donc la gestion doit être rigoureuse. Les gens qui gèrent doivent pouvoir rendre compte. Et donc tous ces aspects sont vraiment proposés dans les documents de politique et bientôt là, on va les mettre de façon claire dans la stratégie. Et nous sommes très contents que le vice-premier ministre est vraiment en train de suivre des choses de près et le premier ministre est en harmonie avec lui. Je crois que régulièrement, il y a des correspondances qui sont échangées entre eux pour suivre comment les processus sont en train de se faire.
Vous donc, avez ça... parlé de socle, vous avez parlé de défis à relever pour que la protection sociale devienne une réalité en République démocratique du Congo. Vous avez aussi le j'ai parcouru un peu le document de la politique de protection sociale. J'ai vu la politique prévoit la mise en place, la création d'une caisse nationale
caisse de solidarité.
À quoi ça peut ressembler cette caisse nationale?
Ok, je crois que ça, les réflexions continuent parce qu'on a fait les documents de politique, on est en train de finaliser la stratégie, mais on doit mener des études. Donc on a proposé des cadres conceptuels, mais on n'a pas encore fini. Donc il faut des études actuarielles, d'autres études qui vont se faire, des évaluations pour pouvoir mettre une autre caisse chez nous. Nous devons savoir que nous avons déjà une caisse. C'est l'INSS, Institut National de Sécurité Sociale. C'est une caisse, mais c'est une caisse...
Mais qui n'assure pas les retraites jusque-là.
Si, il assure les retraites, mais pour les gens qui sont seulement dans le secteur privé. Donc, il ne concerne pas tout le monde. Il concerne les gens qui sont dans le secteur privé.
Les privés à la INSS, oui.
Voilà. Et donc, c'est eux qui paient leurs cotisations à l'INSS. Et après, quand ils seront retraités, et donc ils auront une pension de retraite donnée par l'INSS, les accidents de travail, la maladie professionnelle. Et c'est important. Évidemment, les gens disent, oh, l'INSS, est-ce que ça marche? Les gens doivent savoir. C'est parce que souvent, quand quelqu'un est chez lui, il ne voit pas les avancées de son institution. Aujourd'hui, l'INSS améliore ses prestations. Parce qu'il est membre d'abord de l'Association internationale de sécurité sociale, il est membre du bureau du conseil d'administration. Ce n'est pas tous les États qui sont membres. Et l'INSS travaille aujourd'hui avec un système d'assurance qualité, avec 4 indicateurs clés pour pouvoir améliorer. Donc que les gens fassent confiance à leur institution et qu'ils paient leurs cotisations parce que quand ils seront retraités, ils auront des avantages. La deuxième caisse, c'est celle qui est en train d'être mise en place pour les agents publics de l'État. Mais cette deuxième caisse va couvrir les prestations des retraites, accidents de travail, maladies professionnelles et allocations familiales.
Qui devraient déjà en principe être organisées, mais qui ne le sont pas.
Voilà, mais avec le gouvernement actuel, on est très avancé. Je crois que tout est fin prêt. ils ont bientôt là, on doit commencer cette caisse des agents publics de l'État. Donc tous les fonctionnaires de l'État, ils vont cotiser, l'État va donner aussi sa quote-part, et avec ces deux montants, on va les mettre dans cette caisse pour que la caisse puisse prendre en charge les agents publics de l'État une fois retraités. Mmh. Et c'est pour cela que vous voyez que les deux caisses mises ensemble ne représentent même pas 10% de notre cotisation, de notre population. Donc le gros de notre population n'est pas couvert. Ce sont les gens qui sont dans l'économie informelle. Ils représentent plus de 85% de notre population. Et donc c'est là qu'ils seront couverts par la caisse de solidarité nationale. Et cette caisse de solidarité nationale va prendre en place les prestations des personnes de troisième âge, les prestations des vulnérables et de l'enfance. Comment il est financé? C'est comme j'ai dit, par les taxes. Et certaines personnes qui peuvent être aujourd'hui vulnérables, parce que ce n'est pas aussi une œuvre caritative, demain ils peuvent quitter la vulnérabilité et commencer à cotiser. Donc tout cela est prévu dans cette caisse. Mais aussi, c'est aussi ici le moment d'appeler les Congolais de la diaspora. Parce que si on voit le flux financier des transferts d'argent entre nos frères qui sont à l'étranger vers les membres de leur famille ici, je crois qu'on peut capitaliser ça. Et toutes ces réflexions ont été menées lors de la table ronde, lors des consultations au niveau de toutes les provinces de la RDC, pour voir comment eux aussi ils peuvent, en faisant ces transferts d'argent vers le Congo,
contribuer
pour la sécurité sociale de tous les Congolais.
Mais à quel niveau la stratégie n'est pas encore arrêtée pour comment tirer quelque chose de ces transferts de fonds qui s'effectuent.
Donc,
les études sont en cours.
Voilà, et donc même les transferts là, avec les banques ici qui organisent ces transferts, je crois que l'État congolais peut discuter avec eux pour prélever un petit montant pour la caisse de sécurité sociale de la population congolaise. Donc ça peut se faire. Mais aussi les Congolais qui sont à l'étranger, ils peuvent payer pour les gens de leur famille. Ils peuvent venir investir ici pour que cela puisse nous permettre justement d'avoir de quoi financer notre caisse de sécurité sociale que nous voulons être financée à 100% par les Congolais.
Il était aussi question dans les conclusions de la table ronde sur la protection sociale qu'il sera créé une haute autorité.
Tout à fait. Et oui. Donc, il y a un organe qui doit gérer l'ensemble. Mais la haute autorité aura des représentations jusqu'au niveau local. Mais comme j'ai à le dire ici, on a fait le travail, la population s'est prononcée, l'autorité a reçu des documents, et donc maintenant on doit faire appel à d'autres experts qui peuvent nous accompagner dans les études actuarielles pour ne pas faire de l'aventure. Et c'est là qu'on a prévu une haute autorité de la protection sociale. Et nous sommes aujourd'hui très contents parce que avec la décentralisation, l'unité fonctionnelle de notre protection sociale, ça sera soit la commune administrative, soit les secteurs. Et donc, toutes les cotisations se feront à ce niveau-là. Les contrôles se feront à ce niveau-là. Et l'autorité locale devra rendre compte parce que la redevabilité fait partie des principes clés de notre système de protection sociale.
Le chef de l'État l'avait demandé dans un décret depuis 2005. Ça n'a pas eu lieu. Et vous, Anatole, aujourd'hui, en 2015, vous êtes vraiment rassuré que cette fois-ci, c'est la bonne occasion, vous allez réussir.
Oui. Je pense qu'on va réussir. Pourquoi? Parce que d'abord, le gouvernement fait de cette préoccupation son cheval de bataille. Comme je vous ai dit, doter le gouvernement de la RDC d'une politique nationale de protection sociale était la première priorité dans la lettre de mission. Et on observe cela dans le financement. Je viens de vous dire, pour tous ces processus, il nous a fallu 440 000 dollars. Et l'État a donné la moitié. L'État a donné la moitié de ses budgets. La table ronde était prise en charge pour ce qui est des logements, des restaurations des gens par le financement de l'État. Les partenaires ont aussi contribué, mais pour d'autres aspects.
Ce qui a de l'engagement.
Voilà. Et puis, on a vu de l'engouement. Je vous ai dit qu'on a fait un tour dans toutes les provinces. Mais il faut voir, je vous dis qu'on a eu 7 gouverneurs de province. Donc tous les acteurs, même les chefs coutumiers, les ONG.
Ils ont compris le message.
Les représentants des travailleurs, les syndicalistes. Donc tout le monde était présent et tout le monde était positif. Donc je pense qu'avec cet engouement, nous pensons que nous sommes dans le bon.
Si j'ai retenu quelque chose de notre entretien, docteur, c'est d'éviter le gaspillage.
Oui, je crois que ça c'est un défi important. Les Congolais, nous devons éviter les gaspillages.
Au travail.
Oui, mais nous devons aussi savoir qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous aider à nous développer. Et donc, on ne peut pas se comporter dans notre pays comme si on était des mercenaires. Donc, on doit investir, on doit éviter la corruption, on doit travailler, on doit être conscient parce que je pense que le seul héritage qu'on peut laisser à nos enfants demain, c'est un système de protection sociale qui marche. Et je crois que tout le monde doit être conscient de ça.
C'est sur ces mots, Dr Anatole, que nous allons clôturer et boucler cette émission Panorama économique. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans ce studio, mais nous pensons et espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous venez nous rendre visite pour que nous parlions de cette question aussi importante qui va assurer, qui va poser les socles d'un bon développement pour la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci docteur.
À moi de vous dire merci.
À vous aussi, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. André Mongou a réalisé cette émission. Merci de la retrouver toute la semaine sur www.radiookapi.net. Quant à moi, je vous dis très bonne fin de semaine et au revoir.